Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
L'évangile que nous avons entendu est extrait de la prière sacerdotale que nous avions déjà entendue dans les nocturnes du Jeudi Saint. Et cet évangile fait directement suite à celui que nous avons entendu dimanche dernier, où le Christ nous invitait à prier son Père en son nom. Cette prière que le Christ adresse à son Père est destinée à ses disciples et à tous ceux qui croiront en lui dans tous les temps présents et les temps futurs. C'est après avoir lavé les pieds de ses disciples et partagé le dernier repas avec eux que le Christ leur donne une sorte de testament en résumant son message d'amour, quelle était sa mission et qui il est vraiment. Pourquoi appelle-t-on cette prière sacerdotale? Pourquoi? Parce qu'elle est celle de celui qui est le grand prêtre de l'humanité, celui qui va s'offrir en sacrifice pour le salut de son peuple, celui qui, par son passage, par sa mort prochaine et sa résurrection, va prendre sur lui les péchés du monde et nous ramener vers son Père et notre Père, le Créateur de toutes choses. C'est la prière du prêtre qui se donne entièrement à Dieu pour que le monde vive. La prière sacerdotale de Jésus s'inspire d'ailleurs de la plus grande de toutes les fêtes juives, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Quand Jésus prie pour lui-même, ce n'est pas sa personne qu'il a en vue, mais l'œuvre de Dieu que son Père lui a donnée. Et qu'est-ce que le Père a donné à son Fils? C'est la création, c'est l'humanité. Et pourquoi faire? C'est ce qui est dit dans le verset 2. De même que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, qu'ainsi il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Il a reçu pouvoir. D'autres traductions disent, il a reçu autorité, il a reçu puissance sur toute chair, c'est-à-dire sur l'humanité entière. Alors pourquoi cette autorité, pourquoi ce pouvoir, pourquoi cette puissance, cette souveraineté? Pour donner la vie éternelle. Il y a peut-être une chose que vous avez remarqué dans ce verset, mais même dans la suite de l'évangile que l'on vient de lire, c'est l'utilisation du verbe « donner ». Ici, dans le verset, c'est trois fois le verbe « donner » qui est utilisé. Dieu, c'est celui qui donne, qui se donne à nous. C'est l'amour dans toute sa grandeur et dans toute sa générosité. L'heure est venue. C'est maintenant que va commencer l'expression absolue du don, en se donnant sur la croix. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, avait-il dit à ses apôtres précédemment. Le Christ ne subit pas sa passion, mais il la vit dans l'amour en se donnant librement à l'image de l'amour du Père. Et le Christ va expliquer à ses disciples ce qu'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu de vérité, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Alors c'est bien gentil, mais est-ce que nous ne définissons pas Dieu aussi de manière apophatique comme l'inconnaissable? Et pour ça, Jésus s'empresse de nous sortir de cette situation en ajoutant « et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Bien souvent, la vie éternelle est présentée comme une vie après la mort physique. Pour le Christ, la vie éternelle, c'est d'abord une connaissance. non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire naître avec, communier avec, ne faire qu'un avec. Je ne vous laisserai pas orphelin. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez. La vie éternelle n'est pas un concept philosophique ou théologique, mais c'est d'abord une communion, une relation amoureuse. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est aussi dans l'évangile de Saint Jean, tout au début. Nous ne sommes pas des enfants perdus, livrés aux caprices de l'existence, de la terre et de l'univers. Nous allons vers une éternité d'amour qui dépasse notre univers créé. Notre univers a commencé un jour et un jour il finira. Il n'est pas éternel. Mais le Christ ressuscité, revêtu de la puissance d'amour de Dieu, demeure pour l'éternité. Il n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin. Il est la tête de l'humanité qui est appelée à ne faire qu'un avec lui. La vie éternelle, c'est ne faire qu'une seule chair, c'est s'attacher à celui qui est la vie. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père si ce n'est en passant par moi. La vie éternelle est une vie qui dépasse le simple fait d'exister. Jésus-Christ signifie Dieu Sauveur et Messie. Il est Dieu manifesté à l'homme pour devenir en lui la vie éternelle. Dimanche dernier, l'apôtre Jacques disait dans son épître « Quiconque entend la parole et ne l'accomplit pas est comparable à l'homme qui regarde dans un miroir le visage qu'il a reçu à sa naissance. Il se regarde, puis il part et il oublie vite comment il est fait. » Nous sommes faits à l'image de Dieu. Notre véritable nature est divine. Le Christ est venu nous apporter la nourriture nécessaire à cette nature divine. C'est sa parole qu'il nous invite à accomplir. Souvenez-vous, le premier évangile pendant le carême, dans la tentation dans le désert, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. L'œuvre que le Christ devait accomplir était de ramener à Dieu ceux qui s'en étaient détournés. Dieu lui avait confié l'humanité pour lui montrer quelle était sa destinée divine. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je le leur ai données, et ils les ont accueillies. Ainsi, ils ont véritablement compris que je suis venu de toi, et ils ont cru avec certitude que c'est toi qui m'as envoyé. On pourrait croire, en entendant ces paroles, que les apôtres ont maintenant une foi inébranlable en lui. Et pourtant, 3 jours plus tard, ils vont s'enfuir et abandonner Jésus. Alors si le Christ dit cela, c'est qu'il voit au-delà du futur proche. Il sait qu'il a semé des germes de vie dans leur cœur, et germes qui un jour porteront des fruits, et ce, pas plus tard qu'à la Pentecôte. Dans la première lecture, saint Paul demande à des disciples, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez eu la foi ?» Et lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Étonnant, non ? Nous pouvons avoir la foi dans le Christ ressuscité et son œuvre salvatrice, mais notre foi doit être nourrie. Et saint Séraphin de Sarov l'a bien compris quand il répond à son disciple Motovilov que le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut éclairer notre intelligence, qui peut rendre vivantes les paroles du Christ et nous faire connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, dit saint Paul dans son épître aux Romains. C'est l'œuvre de l'esprit, justement, de faire habiter Jésus, de faire vivre en nous les paroles, ses paroles. Et avec lui, c'est Dieu aussi qui pourra vivre en nous. Alors dimanche prochain, nous allons accueillir l'Esprit Saint de Dieu en célébrant dans la joie la divine liturgie de la Pentecôte. Alors à lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.